Europe 27.
Bonjour à vous, auditeurs de Divergence FM, c'est Europe 27 qui commence avec Yves Gurcan au micro pour vous. Vous êtes bien sur le 93.9, que vous soyez au volant de votre voiture en train de manger un bout ou bien de boire un coup, l'émission Europe 27 est là. La seule émission qui ne parle que de l'Europe sur la bande FM languedocienne, je l'ai vérifié rien que pour vous. Europe 27 d'ailleurs, c'est tous les 4e mardi du mois à 13h30, rediffusé le vendredi à 9h30. Alors, au programme de ce 4e numéro, donc l'Europe diplomatique sur un plateau. Nos invités sont autour de notre table à divergence, Madame Maria Grazia Cioffarelli, vice-consul honoraire d'Italie, Madame Henriette Glaise de Cambière, consul honoraire de Malte, Monsieur Martin Andersch, consul honoraire d'Allemagne, et Monsieur Tito Livio Santos Mota, qui, alors il va bien sûr nous dire que ce n'est pas ça, mais pour ma part, je pense qu'il est conseiller consultatif du consulat du Portugal et président de l'association lusophone Casa Amadis. Bonjour messieurs, dames.
Dit comme ça, c'est vrai.
Parfait. Alors au sommaire de ce Europe 27, l'Europe diplomatique sur un plateau, eh bien il y aura trois parties. Une première partie qui sera un petit bilan sur la journée de l'Europe du 9 mai à Montpellier. Une fête pour célébrer la déclaration Schuman de 1950, le discours fondateur de l'Union Européenne. Après, en deuxième partie, on fera une petite mise au point, on pourrait presque dire un point pédagogique sur la question de l'Europe diplomatique. Quels sont les liens qu'entretiennent les différents pays européens ? Et une question toute simple, qu'est-ce que c'est un consul ? Ensuite, en troisième partie, un petit débat sur la crise européenne. La Grèce, le pays le plus risqué de la planète pour les marchés. C'était sur le blog de Jean Quatremer de Libération. Donc le FMI se mêle des affaires européennes en contribuant à un plan de secours à la zone euro à hauteur de 250 milliards sous forme de prêts. Comment l'Union européenne et la zone euro en sont arrivées là ? Les agences de notation font-elles la pluie et le beau temps sur le marché européen et sur la dette des États ? Eh bien, avant de parler de tout ça, nous allons écouter un petit morceau de musique, un petit morceau de musique libre parce qu'on aime beaucoup ça à Divergence. C'est un groupe qui s'appelle Revolution Void et le morceau c'est Double the Daily Dose, c'est de l'album Increase the Dosage. Et bien sûr, comme c'est une licence un peu spéciale, eh bien on va la citer, c'est une licence Creative Commons 3.0 by NCSA. We'll be right back. Europe 27, première partie de cette émission. Je suis en compagnie de plusieurs consuls autour de cette table, et dont un représentant du Portugal, en quelque sorte. Donc, je suis donc en compagnie du consul honoraire d'Allemagne, du consul honoraire de Malte, de la vice-consul honoraire d'Italie, et de Tito, qui ne veut que représenter sa propre voix.
Non, en fait, je ne suis pas consul honoraire. Et il y a très peu de consuls honoraires en France parce que la diplomatie portugaise fait que ils considèrent que les consuls sont surtout des personnes qui sont au service de l'énorme communauté portugaise qui est en France.
Très bien. Très bien.
Et les consuls honoraires, administrativement au Portugal, ne peuvent pas faire ni passeport, ni la plupart des actes. À la limite, il serait intéressant, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour avoir un greffier qui vienne au moins une fois par mois, que lui a paradoxalement beaucoup plus de pouvoir à ce niveau-là qu'un consul honoraire.
Tout à fait, oui. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, j'aurais voulu un petit peu recueillir vos avis sur la journée de l'Europe qui s'est passée à Montpellier, bien sûr, le 9 mai, pour fêter la déclaration Schuman. Alors vous étiez présent, bien sûr, à cette journée de l'Europe, et j'aurais voulu un petit peu savoir ce que vous en avez pensé. Voilà. Je ne sais pas qui voudrait commencer. Les dames en premier.
Pour ma part, je pense que c'est une journée qui aurait dû avoir beaucoup plus de retentissement qu'elle n'a eu. Il aurait peut-être fallu faire ça à Fréjorgues, dans l'immense parc de Fréjorgues où on aurait été à l'abri de la pluie. Ça a été très mouillé. Nous n'étions pas très abrités, donc très peu de Montpellierains ont pu venir. Et c'était regrettable. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de publicité qui a été faite.
Ouais, on n'en a pas assez parlé avant et après, en fait. C'est peut-être le problème, non ? Qu'est-ce que tu en penses, Gratia ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Bon, c'est vrai que le temps, on n'y peut rien. On n'a pas eu de chance. C'est comme ça, il pleuvait. Nous étions tous mouillés de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Et bon, ça, on n'y peut rien. En revanche, effectivement, je pense, moi aussi, comme madame le consul de Malte, qu'il n'y a pas eu assez d'informations qui est parvenue aux Montpelliérains. Moi, je pense que il y avait simplement les passants de la place de la Comédie, les gens qui seraient de toute façon allés se promener. Journée de l'Europe ou pas, quoi. Enfin, il y avait très peu de gens qui sont venus exprès pour la Journée de l'Europe, à part les associations qui tenaient les stands et les groupes essentiellement espagnols, d'ailleurs, qui ont animé un petit peu cette malheureuse journée.
Une malheureuse journée, alors.
Pas, oui, parce qu'il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Et moi, personnellement, je suis tombée malade.
C'est quand même une journée qui a pu rassembler beaucoup, beaucoup d'associations, disons, à vocation européenne à Montpellier.
Certes, oui, bien sûr, mais évidemment, je plaisante. Non, oui, quand je parle, je sais, enfin, malheureux était le temps. Non, effectivement, oui, c'était l'occasion de rencontrer les associations européennes sur Montpellier. Et même cette année, il y avait la Russie qui était jamais venue auparavant, et c'était très agréable de savoir qu'il y a une association russe qui est active. Je sais que la dame dispense des cours de russe et qu'il y a une semaine russe chaque année. Et en revanche, j'ai remarqué l'absence de la Maison de l'Europe. Donc, l'année dernière, me semble-t-il, nous avions collaboré aussi avec la Maison de l'Europe pour cette journée. Et cette année, il n'était pas présent. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je trouve fort regrettable que la Maison de l'Europe n'ait pas été invitée ou ne soit pas venue. Ou, enfin, en tout cas, elle n'était pas là.
Très bien. Et Tito, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ou Monsieur Anders, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, oui, cette journée de l'Europe.
Pour faire un peu l'historique de cette maison, de cette journée de l'Europe, nous vivons dans un pays où l'Europe, malheureusement, est prise comme cible, plutôt effectivement, comme être responsable de tout ce qui nous arrive comme négatif. Au lieu de faire valoir un peu les effets positifs de cette Union européenne. Nous sommes maintenant très grands, très nombreux dans cette Europe, ce qui est aussi interprété comme une précipitation plutôt négative. Nous avons quand même un développement qui est intéressant de le constater sur la ville de Montpellier, que l'international a son importance. Je crois que la preuve, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de consuls honoraires. Je suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation tout à l'heure que, bon, c'est vrai qu'effectivement, le consul honoraire n'est pas un représentant de l'État, donc pas un fonctionnaire qui peut faire des actes administratifs, mais nous faisons quand même énormément de facilitisation pour les citoyens de notre communauté allemande, par exemple, ce qui est une bonne suggestion d'ailleurs, de faire venir éventuellement dans cette maison de relations internationales qui est quand même assez unique à Montpellier, peut-être un représentant, à des intervalles réguliers pour aider éventuellement les citoyens portugais dans ce cas-là de pouvoir faire effectivement des actes administratifs dans cette ville. La journée de l'Europe était trop excentrée. C'est vrai que la Maison de l'Europe l'avait initiée. C'était quand même un petit cercle un peu restreint seulement qui participait à cette journée de l'Europe jusqu'à maintenant. La mairie, l'année dernière, avait fait un grand effort au bout de l'esplanade pour donner la possibilité de l'organiser. Nous avions beaucoup plus de chance avec le temps l'année dernière. Et à ce moment-là, Madame le maire avait décidé qu'effectivement, ça devait se trouver sur une place centrale, beaucoup plus centrale et accessible aussi, par le hasard des passages à tous les citoyens qui s'y promenaient. Et je crois qu'effectivement, l'emplacement, c'est stratégique. Nous connaissons tous cette importance stratégique du point de vue passage de la population dans ce triangle entre l'esplanade, la Comédie et le Polygone. Donc, on n'a pas eu de chance. Les associations allemandes étaient bien représentées, très courageuses, avec la maison de Heidelberg aussi très bien représentée, avec une initiative que vous connaissez tous, effectivement, c'est Deutschmobil, qui est quand même quelque chose d'important dans cette ville, qui a été créé dans cette ville. Et je crois qu'effectivement, il ne faut pas la dénigrer maintenant. C'était la malchance avec le temps. L'année prochaine, à la même place, et peut-être effectivement un jour ouvrable, ça pourrait avoir beaucoup de succès.
Très bien, très bien.
Moi, j'ai par rapport à la... Je suis en fait d'accord avec vous, monsieur le consul, en tout, en fait. Tant sur la journée de l'Europe, en fait, moi, je ne suis pas aussi négatif que Grazia, madame le consul de Malte. Même si j'ai
quand même... D'Italie.
Et d'Italie. Non, mais et madame le consul.
Ah, d'accord.
parce que, en fait, bon, peut-être parce que on a tous l'habitude de donner, comme on dit en portugais, le corps au manifeste. Et donc, j'ai quand même senti par rapport à d'autres manifestations auxquelles j'ai participé, qu'il y avait quand même du passage. C'était une très bonne idée de le mettre à la place de la Comédie. La formule me semble plus intéressante qu'un repas, même si c'est un repas qui réunit toutes les associations. Déjà, moi, par exemple, dans mon association, peu de gens ont les moyens de participer à ce repas. Et donc, au moins faire ça là, par exemple, même du point de vue gastronomique, c'était intéressant, les gens pouvaient passer et goûter, ça attire les gens. Et on a pu voir des gens qui... nous, c'était positif. Il y avait quand même beaucoup de gens qui sont passés. Et je vois que Gratia va dire quelque chose là-dessus. Après,
oui, alors je crois que mes propos ont été mal interprétés, peut-être que je me suis mal exprimée. Moi, j'ai dit que malheureusement, le temps étant complètement, il a été vraiment pas clément du tout. Je ne sais pas ce que c'est que le contraire de clément en français, mais enfin, c'est... Dites-toi, aidez-moi, c'est quoi le contraire de clément en français ?
Inclément.
Tout à fait néfaste.
Tout à fait néfaste, merci. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, à cause du temps et à cause peut-être d'un manque d'information à la population de Montpellier, cette journée de l'Europe n'a pas été celle qu'aurait pu être si le temps avait été clément, si une information avait été adressée à la population de façon plus organisée. Maintenant, je veux dire, j'ai beaucoup apprécié cette journée de l'Europe, même sous la pluie, et en plus, c'était un moment de fête, et c'était très intéressant. Moi, je sais que c'était très festif. J'ai dansé avec les Espagnols, j'ai goûté aux différents mets qui ont été apportés par les uns et les autres. J'ai discuté avec les associations sur les différentes cultures. Ben, je me suis intéressée à la culture russe en particulier parce qu'effectivement, bon, c'était une nouveauté que je connaissais moins. Quand je dis que je regrette que la Maison de l'Europe n'était pas là, je n'en fais pas du tout un grief à qui que ce soit. Je veux dire, c'est dommage, c'est tout.
Bon, est-ce que vous reviendrez tous l'année prochaine alors ?
Ben oui. Non, mais
je suis d'accord avec le fait que c'est mieux qu'un repas. Oui.
Mais il faut savoir que nous sommes des amis, Gretchen et moi. Donc.
Bon, et je voudrais pas passer pour quelqu'un de trop négatif au milieu de toute cette avalanche d'éloges sur cette journée. Je trouve l'idée de la journée extrêmement bonne, mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de publicité.
Moi aussi, bien sûr.
Que ça se sache dans Montpellier, ça ne s'est pas tellement su. Mon association a été présente, qui est très active d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de Maltais à Montpellier, quoi qu'on en pense, parce qu'on ne le sait pas. Cette association a beaucoup travaillé, ils étaient là, ils sont tous venus. C'était bien, mais ça aurait pu peut-être être mieux si on avait fait un peu plus de publicité.
D'ailleurs, je suis admiratif, il y avait plus de Maltais que de Portugais, c'est quand même une gageure en France. mais moi, je souscris à ça aussi, effectivement, il y avait manque de publicité. Ce que je trouve positif, c'est que la formule est bonne. Il faut vraiment la développer.
Soyons clairs, je veux dire. Cette journée de l'Europe, les communautés les plus représentées sont en réalité... les Espagnols, les Allemands, parce que ce sont les plus nombreux. Je veux dire, c'est ça aussi. Hein. Il y a énormément d'Allemands à Montpellier. Monsieur le consul nous dira peut-être combien. Je crois qu'il y a 30 000 Espagnols à Montpellier. Donc, c'est normal. Je ne sais combien d'associations. En plus, les Espagnols sont implantés ici depuis très longtemps. Donc, ce sont des personnes. Il y a aussi des personnes âgées qui sont maintenant à la retraite, qui ont beaucoup de temps, qui ont fait partie d'une vague d'immigration dont le visage était bien différent de celui d'aujourd'hui, par exemple, par rapport à la communauté italienne. Aujourd'hui, l'Italien qui est venu il y a longtemps, bon, il est intégré, il parle même plus italien. Enfin, je veux dire, à l'époque, on interdisait aux enfants de parler l'italien. Et celui qui arrive aujourd'hui, qui débarque aujourd'hui à Montpellier, il vient pour travailler, il vient pour étudier, et il n'y a pas de jumelage avec une ville italienne. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas...
Rejoint, mais c'est le thème de la deuxième partie, je crois.
C'est l'Europe, c'est ça.
C'est par rapport à l'importance, effectivement, d'avoir des consuls honoraires. Parce que je me suis très mal expliqué, il est très important d'avoir des consuls honoraires. C'est l'État portugais qui considère que les consuls ne servent qu'à ça. Nous avons la chance d'avoir un consul très actif à Marseille. Il y a déjà 3 consuls successifs qui sont extrêmement actifs. Et petit à petit, nous avons quand même de très bonnes relations qui s'améliorent de plus en plus grâce à la venue de ces consuls. Effectivement, si on avait un consul honoraire ici, ce serait encore mieux.
Mais un consul honoraire, Tito, un consul honoraire, il doit être aussi soutenu par le consul général qui, pour moi, se trouve à Marseille. Alors, ça dépend aussi, il y a consul et consul, c'est ça que je veux dire. Hein. Moi, je sais que j'ai eu une période vraiment faste avec le consul précédent qui m'appelait sans arrêt, m'encourageait sans arrêt, me conseillait sans arrêt. Il était là, il est même venu le jour de la fête nationale italienne en délaissant Marseille. Je veux dire, il faut savoir qu'un consul honoraire aussi a son travail et c'est une charge très lourde qui lui est...
Je vous propose, avant d'entamer déjà cette deuxième partie, de faire une petite pause musicale. Pardon. Pour donc final au bilan, pour faire un petit bilan rapide de l'Europe, de cette fête de l'Europe, ça serait pas trop mal, mais peut mieux faire.
Oui, moi je pense.
La formule est bonne.
Tout à fait, la formule est bonne, mais.
D'accord. Donc on va écouter alors tout de suite The Homeless Bones, et c'est un morceau qui s'appelle Europe Scream.
Isolation grows. Came out into the streets with me. Welcome to my show. Open your eyes and tell me once again. You don't scream it. The guy don't do. You don't scream it. Believe in a hole. You don't scream it. The guy don't know money. Jump to the street with me. Honey.
C'est la deuxième partie de cette émission consacrée à l'Europe diplomatique sur un plateau. Alors, on a déjà un petit peu débordé sur la première partie, donc on va être un petit peu bref sur cette deuxième partie, qui sera une petite mise au point, on va dire, sur la question de qu'est-ce que c'est être un consul. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous donner une définition, monsieur Andersch?
Si on a déjà débordé dans la première partie, je voudrais vraiment qu'on raccourcit le maximum la deuxième partie, parce que la troisième me semble la plus importante d'actualité. Donc, je crois que dans l'ère de l'Internet, tout le monde peut se renseigner qu'est-ce que c'est un consul honoraire. C'est tout simplement une charge honorifique. Nous ne sommes pas des fonctionnaires d'État. Nous faisons ça, comme pour ma part, comme engagement citoyen honorifique à côté d'un métier. Ça n'empêche pas que ça prend beaucoup de temps. Nous avons la possibilité assez unique, comme j'avais déjà dit, d'avoir une maison des relations internationales à Montpellier qui héberge et Maria Grazia et moi pour les locaux du consulat et aussi le consulat de Pays-Bas. La mairie avait fait appel à d'autres consulats à l'époque, n'ont pas voulu suivre, mais comme je disais, ce serait tout à fait du point de vue disponibilité encore possible de consacrer à d'autres pays européens cet accueil qui est assez unique en France, d'ailleurs en Europe aussi. Nous, on n'en a pas trouvé encore d'autres exemples comme à Montpellier. Et sincèrement, j'y tiendrais énormément si on pouvait surtout sacrifier le temps à la troisième partie qui est
tout
extrêmement
fait,
d'actualité
tout à fait,
et importante.
Tout à fait.
Moi, je voudrais quand même ajouter une chose à ce qu'a dit Monsieur le consul honoraire d'Allemagne, c'est que le travail d'un consul honoraire est un travail de relation. Et un travail de relation entre notre pays, enfin pour moi c'est Malte, et la région, c'est-à-dire Montpellier. Et en ce qui nous concerne, on a des relations très étroites sur le plan universitaire. Il y a beaucoup de Maltais qui viennent à la faculté de droit et à la faculté des sciences. Nous avons créé deux masters communs, donc on a beaucoup de travail que nous faisons en commun. Et actuellement, c'est la faculté de pharmacie maintenant qui est en train de se brancher dessus. Donc ce travail relationnel est à mon avis extrêmement important parce que en ce qui concerne Malte, la France n'est pas très connue à Malte. Ils connaissent bien les Anglais, mais les Français ne connaissent pas. Donc, petit à petit, en s'occupant surtout des jeunes, nous envoyons beaucoup de lycées, de collèges qui vont à Malte pour apprendre l'anglais. C'est très agréable d'aller apprendre l'anglais sur une plage ou en faisant de la plongée sous-marine. Donc, ils sont tous d'accord pour partir et pour y aller. Donc, ce travail relationnel du consulat est à mon avis extrêmement important pour que l'Europe puisse se faire, parce que c'est peut-être ça l'important. L'Europe ne se fera, nous l'avons commencé, nos jeunes vont, j'espère, la poursuivre. Et si on a cette relation entre jeunes, peut-être que ça va avancer. On fait des petits pas et à mon avis, c'est très important.
Je suis complètement d'accord avec les deux consuls. Donc, je n'ai plus rien à dire, vous avez tout dit.
Juste pour info, il y a quand même des actes grâce à la fée Internet qui peuvent être faits dans notre association à travers le consulat virtuel qui permet de faire tout acte qui ne demande pas la présence physique de la personne. Donc, on fait quand même, il y a quand même quelque chose. Mais je suis tout à fait d'accord que si, malgré le travail qui fait notre consul de Marseille, qui vient au moins à peu près tous les deux mois à Montpellier, pour travailler justement ici à Montpellier, parce que il faut le dire, Montpellier consacre beaucoup, beaucoup d'efforts à ça. Reçoit, par exemple, notre consul de Marseille n'a jamais été reçu par Monsieur Gaudin, maire de Marseille, et a déjà les clés de la ville de Montpellier, la médaille de la ville de Montpellier, elle a des relations et des projets avec la ville de Montpellier. Donc, tant qu'à faire, disons aussi tout le bien qu'on pense de Montpellier par rapport à ce travail-là.
Très bien, je pense que le message a été entendu. Alors, on va faire une autre petite pause musicale.
Si vous permettez
musicale.
Quand même un petit
oui.
mot.
Oui, tout à fait.
Nous vivons quand même en Europe, effectivement, qui fait par la situation, qui crée une nouvelle situation, que maintenant, il y a la libre circulation d'hommes, de professions, de marchandises. Et de toute façon, des consulats généraux seront de plus en plus supprimés. C'est la tendance générale de tous les pays. Et très souvent, beaucoup de pays remplacent les consuls généraux, qui sont des institutions très chères pour l'État, par des consuls honoraires beaucoup moins onéreux et qui gèrent effectivement, avec le centralisme de l'ambassade, la représentation du citoyen. Donc ça, c'est un avantage aussi justement de l'Europe.
Très bien. Eh bien, sur ceci étant dit, on va faire donc une petite pause musicale en écoutant Dionysos, Whatever the Weather.
legs are heavy like a dead man body. What about the weather? I get you under my skin. But now it's time for me to climb the top of the hill again. And the snowflakes are heavy like a dead man body. I can't even think about the idea of losing you again. Oh, whatever the weather, I've got you under my skin.
Cette troisième partie de cette émission, la partie que tout le monde a l'air d'attendre autour de ce plateau, c'est bien sûr la question de la crise européenne. Alors la crise européenne, je pense que vous en avez tous entendu parler. Et pour faire une petite mise au point, j'ai fait une petite revue de presse des JT, si on peut dire ça comme ça, qu'on va écouter tout de suite. Ça dure pas longtemps.
Le message passe, les Européens ne laisseront pas faire la spéculation et les Européens, membres de la zone euro, défendront leur monnaie.
Les journaux parlent d'une Grèce proche des abysses. Une chute sans fin, de quoi rendre encore plus fébrile la planète boursière que rien n'arrive à rassurer.
Gros soulagement ce matin à la bourse d'Athènes. La plupart des valeurs sont enfin dans le vert. La hausse atteint les 8%.
Moins 1,52 à Francfort et à Londres. Baisse de 2,93 à Madrid. Pas mieux à Paris. Moins 2,51%.
De Paris à Athènes, en passant par Londres, Francfort et Madrid, les hausses sont comprises entre 3 et 8%.
Les Européens ne laisseront pas faire la spéculation.
Derrière la fermeté retrouvée de l'Union européenne se cache un plan sans précédent par son contenu et son ampleur. 750 milliards d'euros sont mis sur la table. 440 milliards de la part des États membres sous forme de garantie. Cela veut dire que l'argent n'est pas débloqué tout de suite mais réservé au cas où. Le Fonds monétaire international a lui aussi rejoint le plan au cours de la nuit. 250 milliards d'euros en prêt.
Ça sera difficile. Il ne faut pas raconter d'histoire aux Grecs. Les dérapages ont été considérables, c'est difficile de revenir à une situation normale et il faut qu'on la rende la moins pénible possible. C'est pour ça qu'on fournit des financements, pour essayer de rendre l'ensemble de cet ajustement possible. Mais j'ai confiance dans la possibilité de le mener à terme.
Après la Grèce et le Portugal, c'est au tour de l'Espagne de se retrouver dans le collimateur des agences de notation. l'une des trois principales agences, Standard & Poor's, a rétrogradé Madrid de 2 crans, estimant que la solidité financière de l'État espagnol se dégradait.
Une nouvelle révision à la hausse, la troisième. Le déficit public de la Grèce pour 2009 devait être de 12,7% du PIB. Il est réévalué aujourd'hui à 13,6%. Un chiffre qui pourrait augmenter encore.
Quelle est la crédibilité de ces agences de notation gérées par des économistes ? On peut dire qu'elles sont un peu le guide Michelin de la finance. Elles donnent des notes aux banques, aux entreprises cotées en bourse, aux États.
L'Europe était en fête aujourd'hui à Strasbourg. Les Gospel Kids ont participé à éloigner la crise en Grèce et le sommet de Bruxelles pour qu'il ne reste que l'esprit festif et l'anniversaire de la déclaration de Schuman, l'acte fondateur de l'Europe.
Élu à l'automne dernier, le Premier ministre Georges Papandréou a découvert l'ampleur des déficits dissimulés par son prédécesseur.
Voilà, on a entendu un peu cette revue des JT. Alors, c'est un peu malvenu quand même, cette crise européenne et cette question de la dette avec la Grèce. Enfin, parce que du coup, on a entendu Christine Lagarde et Dominique Strauss-Kahn dans ce son, et Christine Lagarde qui dit « on va pas laisser faire la spéculation ». Et en fait, c'est ce qui s'est vraiment beaucoup passé ces derniers temps. La bourse a monté parce qu'on a donné on a dit qu'il y avait un plan de 750 milliards qui était prévu. Elle descend, elle monte, elle n'arrête pas. Et du coup, finalement, après les Grecs manifestent dans la rue, c'était le 11 mars. Et ça crée beaucoup, beaucoup de polémiques, de controverses. L'Union européenne s'en trouve fragilisée. Et les pays de la zone euro et l'euro s'en trouvent du coup moins crédibles avec ça. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez en tant que...
Puis-je être un peu provocatif ?
Provocateur, oui.
Qu'est-ce que vous faites comme métier ?
Comme métier ?
Oui.
Ah, j'étudie.
De quoi ?
J'étudie, comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Eh bien, le journalisme.
Le journalisme.
Oui.
Et vous êtes pour une radio qui s'appelle Divergence.
Oui.
Vous êtes aperçu qu'effectivement, dans cet extrait et dans cette discussion, introduction à la discussion, vous ne parlez que de l'économie, que de la spéculation, que de l'argent. Alors qu'en fait, cette situation dans laquelle nous nous trouvons à cause des spéculateurs et uniquement à cause des spéculateurs, c'est une énorme crise mondiale politique, pas économique. L'économie, c'est de la pure foutaise et de pur intérêt des économiques qui en gagnent des milliards suite à une catastrophe dans laquelle ils ont pu... Ces économes spéculateurs qui ont pu mettre la Grèce en difficulté. Et aucun politicien que vous avez cité fait une argumentation politique pour répondre de façon politique à cette façon inimaginable de gérer le monde uniquement par l'économie et la spéculation.
C'est le paradoxe.
Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, j'ai envie de défendre le gouvernement grec et les pauvres Grecs qui, parce que la Grèce est un pays qui n'a pas de comptabilité publique, est un pays qui n'a pas de politique fiscale. Ça, on le sait depuis longtemps. On le savait quand elle est entrée dans l'Europe. On dit maintenant qu'elle a triché pour entrer dans l'Europe, mais on était au courant. On était au courant quand il y a eu des manifestations de Grecs déjà depuis un an avant la crise. Avant la crise, il y a eu des manifestations. On a presque accusé les gens d'être des gauchistes et des inconséquents, alors que les gens manifestaient contre le fait qu'en Grèce, les seuls qui payent des impôts et qui nourrissent les caisses de l'État, ce sont les employés qui travaillent pour autrui, c'est-à-dire les fonctionnaires et les employés des entreprises. Et ça, tout le monde le savait depuis 2007 aussi, la boule qui a affecté les États-Unis et nos économies maintenant avec cette crise a été dénoncée au Parlement européen depuis 2007. Personne n'a rien fait. Donc voilà. Donc la crise est bel et bien politique. Je suis tout à fait d'accord.
Oui, mais... Oui, vas-y, Katia.
Excusez-moi, mais ce que...
Non, tout à fait.
Ce que je voulais dire, en fait, c'est que dans nos pays industrialisés, dans ce monde globalisé, nous sommes tous endettés les uns avec les autres. Tous les pays européens sont endettés L'Union, enfin, la Grèce est un exemple extrême. Mais nous, à chaque fois qu'il y a une crise, nos États empruntent. Et lorsqu'il n'y a plus d'argent en Europe, on va emprunter auprès d'autres pays industrialisés. Et alors, d'où sort cet argent? Cet argent est simplement émis, on fabrique de l'argent, tout ça est fictif, ça n'a plus aucune ça n'a plus aucun substrat.
Ça devient irréel.
C'est complètement irréel.
Alors c'est la preuve. C'est exactement ce que les spéculateurs voudraient arriver à vous faire dire. C'est bien réel. La spéculation est tellement dangereuse parce qu'elle spécule avec même maintenant des pays. Et rendez-vous compte quand même qu'effectivement, après cette crise mondiale économique qui était réelle par des fausses spéculations, des diverses spéculations, ça a débordé des États-Unis vers l'Europe, nous sommes à peine sortis de cette réelle crise économique, qu'est-ce qui trouve les spéculateurs de montrer encore? Ils arrivent même à spéculer avec les États, c'est-à-dire avec les hommes, avec les citoyens. Ils arrivent après que maintenant on était presque sortis, mais tu parles, comment fais-je pour vous montrer qu'effectivement vous en sortirez jamais? Je vous montrerai même que je suis capable de mettre un État en difficulté avec notre spéculation. Donc c'est pas fictif du tout, on parle de l'argent et on emprunte d'ailleurs à des spéculateurs, pas seulement à des États, parce que l'État ne donne pas vraiment de l'argent, il donne uniquement effectivement un certain budget sécurisé avec un certain intérêt limité. Mais c'est pas lui qui donne l'argent, l'argent vient des spéculateurs qui spéculent avec les politiques et pour leur montrer qu'effectivement ils ont tout pouvoir aujourd'hui.
Le Portugal est un cas d'école, je suis désolé, mais il faut vraiment que je rebondisse là. Ils ont attaqué l'économie portugaise. Le Portugal est un pays qui a des comptes publics parfaits. Certes, il a laissé courir sa dette comme tous les pays européens pendant l'année dernière, mais il a des comptes publics parfaits. Il a un système d'impôts qui fonctionne. Et il a une économie qui a monté l'année dernière malgré la crise de 1% et surtout des exportations qui ont augmenté de 14%, surtout pour les très grandes entreprises. Le problème du Portugal était qu'il fallait que l'État continue d'intervenir pour faire le véritable moteur de notre économie qui sont les PME, qui sont les mangeuses d'emplois justement, pour qu'elle puisse démarrer. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a comparé à la Grèce, on nous a attaqué, on nous a obligé à prendre des mesures sur catalogue qui sont complètement inadaptées à notre cas, qui vont gréver les PME, qui vont faire augmenter le chômage et qui vont réduire les investissements de l'État si nécessaire aux PME et qui vont gréver aussi nos exportations pour les très grandes entreprises. C'est lamentable.
Madame la consul de Malte, vous voulez dire un mot?
Oui, je voudrais. Nous parlions tout à l'heure de déficit politique. Pourtant, l'Europe s'est dotée d'un président. Qu'est-ce qu'il fait? On ne l'a jamais entendu. On ne sait même pas à peine si on peut prononcer son nom parce qu'il est assez difficile à prononcer. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il fait. Alors, est-ce que ce pouvoir politique qu'on lui a donné correspond à quelque chose? Apparemment, pour l'instant, ça ne correspond à rien. Alors c'est assez regrettable, c'est dommage. Cette Europe va un peu sur la tête et n'est gérée que
mais
par
si
la finance.
Si effectivement, voilà, c'est ce que j'allais dire, si effectivement, comme dit Martin, et je le crois, le monde est géré par les financiers, je ne vois plus du tout, nous, nos homo politicus, ce que nous pouvons faire dans ce monde aujourd'hui. Enfin... C'est catastrophique.
Non, ne tombons pas dans ces pièges-là. Nous avons effectivement un pouvoir illimité vis-à-vis de la spéculation. Il faudra uniquement l'interdire. La situation, maintenant, si vous parlez du président de l'Europe, ça y est, on est encore dans la situation, l'Europe ne fait rien. L'Europe nous a sauvés. Ça, c'est mon intime conviction. Si les europhobes auraient réussi ce qu'ils voulaient faire, les spéculateurs surtout, ils auraient sorti la Grèce de l'euro pour justement spéculer de nouveau sur ce qu'ils ont gagné pendant des centaines d'années avec l'échange, pour pouvoir effectivement spéculer sur le drame de la Grèce qui serait dévalorisé pour pouvoir de nouveau après investir. C'était leur objectif de séparer l'Europe. C'était une attaque frontale de l'argent, du capital, de la mondialisation contre une unité qui les embête, parce qu'effectivement l'Europe est plus forte que ce qu'ils souhaiteraient, parce qu'ils n'ont pas la même mise dessus.
Et pourtant, on dit que c'est Monsieur Obama qui, après avoir longuement parlé avec Madame Merkel, l'a convaincu d'aider l'Europe. De la Grèce, pardon. Moi, je crois qu'il y a aussi une autre raison pour laquelle on a aidé, les États-Unis ont cette bienveillance par rapport à l'Europe. C'est que l'Europe est un pays frontalier de la Turquie et qui dépense beaucoup. Enfin, j'ai lu quelque part qu'une grosse partie de son budget, enfin, qu'en tout cas, il y avait un pourcentage très élevé de son budget pour la défense nationale. Parce qu'elle doit se défendre donc de l'ennemi entre guillemets turc qui n'est pas dans l'Euroland comme on dit en Italie, donc dans la zone Europe, mais qui fait partie de l'OTAN. Donc tout ça est très compliqué.
Madame Merkel, il y a des atavismes toujours dans tous les pays. Par exemple, si la BCE n'a pas les fonctions qui d'ailleurs serait absolument indispensable d'instituer maintenant qu'il y a la Federal Reserve des États-Unis, c'est parce que l'Allemagne n'a pas voulu. Et il faut savoir pourquoi l'Allemagne n'a pas voulu, parce que l'Allemagne qui a une croissance continue se satisfaisait très bien d'avoir une banque indépendante qui maintenait sa monnaie forte et c'était très bien pour le système allemand. Elle n'a pas voulu, c'est une des conditions pour l'entrée dans l'euro, pour la création de l'euro, c'est que la BCE soit calquée sur la banque Deutsche Bank. Ce qui a été, maintenant, on s'aperçoit une erreur totale et qu'on est en train de revenir là-dessus. Mais que Madame Merkel, en tant qu'Allemande, en tant que premier ministre de l'Allemagne, ait d'abord une réaction d'Allemande, c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre. C'est normal. Maintenant, l'Allemagne, qui est enfin en récession, quand je dis enfin, c'est pas heureusement, c'est enfin, c'est-à-dire, commence à s'apercevoir que finalement, son système n'est pas le plus adéquat en période justement de récession. Et voilà ce qui explique l'attitude de Madame Merkel et que Monsieur Obama vienne lui dire, écoute, nous, ça fait quand même 200 ans qu'on a réglé ce problème de la Banque centrale, puisque les États-Unis, il faut savoir que la Federal Reserve a été constituée comme un compromis entre les démocrates qui étaient absolument opposés à la constitution d'une quelconque banque et les républicains qui voulaient un système central de contrôle d'échange et de la monnaie. Et donc la Federal Reserve a été constituée non pas comme une banque centrale, mais quand même avec quelques attributions d'une banque, entre autres des choses très très bien. La réserve américaine a pour obligation de maintenir la stabilité de la monnaie, mais elle peut jouer sur la monnaie pour éviter le chômage pour corriger les investissements et la dette extérieure. Donc, elle a quand même des pouvoirs qu'on aimerait bien maintenant, évidemment, que l'on est dans la mouise, voire attribuer à la BCE.
Oui, mais on en revient toujours à ce que disait Monsieur le consul d'Allemagne, c'est qu'il manque d'une volonté politique en Europe. Nous n'avons pas de volonté politique. Qui fait que ce sont les finances qui mènent tout le reste. Et c'est l'Allemagne qui mène la danse parce que l'Allemagne est certainement sur le pays le plus fort dans ce domaine en Europe. Donc voilà.
Mais oui, bien sûr. Parce que une chose, c'est posséder des euros en Allemagne et une chose. Le pouvoir d'achat de l'euro varie de pays en pays et on s'aperçoit qu'en fait il y a une sorte de fracture, il y a une véritable fracture entre le pouvoir d'achat des Européens du Nord et des Européens du Sud. Donc, et à côté de ça, il y a les intérêts nationaux des États. Il n'y a pas de fiscalité européenne. Il n'y a aucun contrôle au niveau de...
Il n'y a rien de pire pour l'économie européenne que de mélanger toutes nos économies comme on fait, mettre tout ça dans un sac. L'économie portugaise ne fonctionne absolument pas comme l'irlandaise. Elle n'a pas les mêmes priorités. Disons, les interventions de l'État et les interventions monétaires et des choses comme ça. Il y a par exemple des économies européennes qui sont très contentes que l'euro s'effondre puisqu'ils basent leurs exportations, leur attrait touristique et autres là-dessus. Ce qui est catastrophique pour bien d'autres pays qui ont d'autres systèmes. Mmh. Comme par exemple l'Allemagne. Pour l'Allemagne, c'est très très mauvais pour le système économique et pour l'économie de l'Allemagne que l'euro s'effondre. Et le système allemand nécessite, même si c'est un grand pays exportateur, nécessite quand même une monnaie stable et une monnaie forte. Et les spéculateurs jouent là-dessus. Et c'est lamentable, c'est de voir. Et là, c'est là que je pense que l'Europe a failli vraiment. C'est au niveau politique, effectivement. Elle avait besoin, non pas de venir avec des trucs comme ça. Oui, le Portugal, c'est la Grèce. Il y a des mauvais élèves ou des choses comme ça. Et mettre tout dans le même sac. Mais être quand même, parce que ce sont des grands politiciens, et dire, voilà, nous sommes composés de pays extrêmement différents. Des pays essentiellement agricoles. La Grèce ne vit que de son tourisme et de son bâtiment. Il y a des pays qui sont exclusivement exportateurs de produits industriels. Ainsi de suite, pays agricoles comme la Pologne, par exemple. Pensons ce qu'on peut faire. Comment est-ce qu'il faut faire pour avoir une monnaie stable dans ces conditions-là? Quelles doivent être les attributions de la BCE pour stabiliser la monnaie et stabiliser les marchés quand il faut, et des choses comme ça, et non venir nous venir avec des généralités qui ne font que créer un sentiment anti-européen, d'ailleurs, puisqu'on dit, finalement, l'Europe ne comprend rien de ce qui nous arrive, parce que c'est ce qu'ils pensent, les gens. Mais ça part, justement, de ce discours complètement nul qu'ils ont, de ne pas... Comment est-ce que vous voulez qu'un Portugais ou un Irlandais puisse comprendre la politique européenne si le discours officiel est complètement contraire aux intérêts de leur pays? C'est ça le problème.
Monsieur Anders, je voulais peut-être dire quelques mots.
Oui, c'est... Bon, pour revenir un peu à l'Allemagne, je voudrais pas être chauvin. Les Allemands, ils ont hésité plus longtemps que peut-être d'autres pays, surtout certains politiciens que je nommerai pas qui réagissent toujours très vite avant de réfléchir peut-être aussi, pour jouer tout simplement le premier rôle vis-à-vis de des nouvelles. Et en plus, effectivement, il y avait une élection très importante régionale en Allemagne qui a joué un rôle dans cette décision extrêmement importante. Et puis, je voudrais vous dire que, comme je dis, sans vouloir être chauvin, l'Allemagne, elle a fait les dernières 10 années une restructuration profonde, un peu à la Scandinave, de toutes ces réglementations importantes du point de vue de retraite, lois sociales, impôts, fiscales, complètement revu sa fiscalité. Et c'est un peu à cause de ça aussi qu'elle n'est pas dans une situation aussi catastrophique, peut-être que par exemple en France, où les réformes, on les demande, on les projette, mais on est incapable de les faire. Excusez-moi si je suis très direct, mais par exemple, regardez la discussion actuellement avec les retraites. Et ça, c'est un problème européen aussi. Mais pour finir avec une pointe quand même, ces économistes ont quand même créé un mot pour les pays qui, soi-disant, pour eux, sont les mauvais élèves. Vous vous rappelez de ce mot? Comment ils s'appellent, ces pays?
Les pigs.
C'est les cochons. Ces cochons ont créé un nom pour les autres qui, effectivement, eux, ils considèrent comme les mauvais élèves. Et c'est quand même absurde. C'est quand même révoltant que même ça se produit au niveau de l'Europe, que ces gens-là peuvent déclarer ça, c'est des pigs.
Voilà. Donc, ça sera le mot de la fin parce que le temps file. Donc
enfin, un jour, on arrivera à la faire, cette Europe. Faudra qu'on parle tous la même langue, déjà. Peut-être ça serait bien.
Espérons-le.
Donc voilà. Avant d'écouter un petit portrait, comme on en fait à chaque fois à la fin de cette émission, je voudrais donc remercier mes invités qui ont été, que j'ai beaucoup apprécié votre présence à Europe 27. Donc je remercie Madame Grazia Ciofarelli, qui est donc la vice-consule honoraire d'Italie, Madame Henriette Cambière, qui est de Cambière, qui est la consul honoraire de Malte, Monsieur Martin Anderge, qui est le consul honoraire d'Allemagne, et Monsieur Tito Santos Motta, qui est donc le conseiller consultatif du consulat du Portugal et président de l'association lusophone Casa Amadis. Merci beaucoup, messieurs, dames.
Vous avez encore une seconde?
Une
seconde.
Une toute petite.
Si vous voulez effectivement que ça marche mieux en Europe, ouvrez plus vos antennes à ce problème et avec les auditeurs. Comme ça, on aura une vraie répercussion parce que c'est dommage de limiter à un des problèmes les plus importants de l'Europe actuelle à, par exemple, pour quelques minutes de musique, ouvrez le discours.
Très bien. Ça sera donc le dernier mot, le mot de la fin. Donc, on va écouter un portrait, donc, de Susanna, qui est donc étudiante à Heidelberg, ah, qui oui. est venue passer une année à Montpellier. On écoute tout de suite.
Il existe ce programme des villes jumelles avec Montpellier, avec la Chine, les États-Unis et l'Allemagne. Et moi, je suis de la ville jumelle Heidelberg. Et la Maison des Relations Internationales propose une bourse pour chaque ville jumelle dont j'ai nominé. Et oui, voilà, moi je suis à Heidelberg, c'est pour un an. Et c'est-à-dire, c'est un stage à la Maison des Relations Internationales. Et en même temps, on a le choix de faire soit l'IEFE, Paul Valéry, soit s'inscrire indépendamment pour, par exemple, un master. Mm-hmm. Ce que j'ai fait, puisque j'avais pas besoin de faire le IEFE.
Qu'est-ce que vous étudiez ?
Moi, je suis un master lettres modernes, master 1, oui.
Vous étudiez le français, bien sûr ?
Oui, voilà, français, lettres français et italiennes. Après, musicologie. Et j'ai appris le français déjà il y a longtemps.
Qu'est-ce qui vous a attiré alors vers l'apprentissage de langues étrangères ?
Ce qui m'attire de plus, c'est de pouvoir communiquer avec beaucoup de monde. C'est-à-dire, surtout parce qu'en Europe, ça, c'est très pratique de voyager. Vu qu'on a l'euro et tout ça, ça n'est plus compliqué. Donc maintenant, il est très utile de savoir parler beaucoup de langues. Et le français, c'est un de mes quatre langues que je parle couramment. Après, je suis en train d'apprendre aussi le portugais. Donc oui, c'est juste l'aspect de pouvoir communiquer partout avec tout le monde.
Vous vous destinez pour quel métier ? Interprète ou ce genre de choses ?
Pas du tout l'interprète. Je crois que ça va finir dans une institution interculturelle, genre cultural management, ce qui m'intéresse assez. Aussi des institutions comme la Maison des Relations Internationales, mais aussi, je sais pas, organiser des festivals comme par exemple ici, le Festival Radio France Languedoc-Roussillon. C'est un peu ça ce qui m'intéresse, puisque c'est la liaison avec des langues différentes et aussi de la musique, bien de la culture en général.
Qu'est-ce qui vous a attiré à Montpellier, bien sûr, en dehors du partenariat avec Heidelberg? Qu'est-ce qui vous a attiré dans la ville de Montpellier?
C'est en général l'ambiance midi qui me plaît assez, qui me plaît beaucoup. Après, c'était aussi la fac pour Valérie qui. Moi, je connais plein de gens qui ont déjà fait ses études ici, puisque l'université de Heidelberg envoie chaque année beaucoup d'étudiants là, qui m'ont dit que c'est une bonne expérience de faire ses études ici. Après, c'est aussi l'offre culturelle, genre le musée Fabre ou bien l'opéra, où on trouve quand même assez bons spectacles, presque des vedettes de la musique classique aussi. Donc c'est un peu tout, c'est la culture en général du Sud que j'aime bien, mais aussi la culture particulière à Montpellier.
Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de la ville d'Heidelberg pour les Montpellierens qui ne la connaissent pas, parce que Heidelberg est en partenariat avec Montpellier depuis longtemps. Est-ce que vous pourriez nous faire un peu voyager ?
Enfin, Heidelberg, c'est une très vieille ville qui possède ce beau château. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images. Voilà, c'est une ruine, mais c'est très romantique en fait. C'est une vallée entre les montagnes. Parmi les montagnes, il y a un fleuve dans cette vallée-là. C'est-à-dire le climat est un peu comme à Montpellier aussi, il ne pleut pas trop. Il est un peu humide toujours, mais aussi très chaud pendant l'été. Après, il y a un centre historique super romantique où on trouve aussi les caves de vin, les caves de la bière. En fait, l'université d'Heidelberg est la plus vieille université de toute l'Allemagne. Donc là, on a une grande tradition universitaire. En général, et après, oui, c'est vraiment une ville étudiante. Je crois on compte à peu près 130 000 habitants et là c'est pas la moitié mais un tiers sont étudiants. Donc il y a beaucoup de mouvements. Après, c'est plutôt le centre historique qui est intéressant à mon avis. Après on a la forêt qui est belle. Voilà, au centre c'est pas comme à Montpellier, mais aussi il y a des petites ruelles, des petits bars, il y a des petites galeries, des musées, des théâtres. C'est assez bien comme lieu à vivre.
Voilà, c'était donc Susanna qui nous parlait de Heidelberg. Et donc Europe 27, l'Europe diplomatique, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie à la technique Pascal Roulier et je vous dis au mois prochain. Allez, au revoir.